VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue à l'édition du mardi 16 juin 2015, en votre compagnie Idrissa Seydoudia et Morgane Guiriec. À la une ce soir, du nouveau sur le double attentat suicide qui a fait 24 morts hier à N'Djamena, la capitale du Tchad. Le parquet annonce que plusieurs suspects ont été interpellés. La lutte contre Boko Haram, les États-Unis vont contribuer à hauteur de 5 millions de dollars à la force régionale présidentielle rwandaise. Le Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir, s'est prononcé pour une réforme de la Constitution qui pourrait permettre au président Kagame de se présenter pour un troisième mandat. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Du nouveau sur le double attentat suicide qui a fait 24 morts hier à N'Djamena, la capitale du Tchad. Le parquet annonce que plusieurs suspects ont été arrêtés, mais les autorités, estimant que ces attaques ont nécessité une préparation minutieuse, continuent de chercher les commanditaires et les complices. La capitale N'Djamena était donc quadrillée par la police et l'armée ce mardi. Jacques Aristide.
Un des blessés des attaques contre le commissariat central et l'école de police est décédé hier, portant le bilan à 24 morts. Selon le gouvernement tchadien, 4 terroristes ont également été tués. Policiers et soldats étaient déployés en masse ce matin dans la capitale. D'après l'AFP, ils fouillaient systématiquement les véhicules et leurs occupants. Des checkpoints interdisaient également la zone du commissariat central et la voie passant devant le palais présidentiel. Dans le cadre de ces contrôles de sécurité, N'Djamena avait annoncé dès hier que la circulation des véhicules à vitres fumées est formellement interdite. Le gouvernement a également appelé la population, je cite, à garder tout son calme et sa sérénité légendaire, car la situation est entièrement sous contrôle. Ces attaques qui visent à créer une psychose ne sauraient émousser la détermination et l'engagement du Tchad à combattre le terrorisme. Fin de citation. Les autorités ont rapidement accusé les islamistes nigérians de Boko Haram d'être les auteurs de ce double attentat. Depuis Alger, où il se trouvait en visite officielle, le président français François Hollande a déclaré que Boko Haram devra rendre compte de cette nouvelle horreur humaine.
Toujours dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, les États-Unis vont contribuer à hauteur de 5 millions de dollars à la force régionale de lutte composée du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Bénin et du Cameroun. Claire Morin-Gibourg.
Par la voix de la secrétaire adjointe du Bureau des Affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield, les États-Unis ont fait part de leur inquiétude face à la menace régionale que constituait le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Au Nigeria, alors que le centre de commandement de la lutte contre la secte islamiste a été transféré à Maïdougouri, le président Muhammadu Buhari, au micro de nos confrères du service Haoussa, est revenu sur l'importance d'un commandement de la force régionale nigérian.
Le Nigeria est au centre du champ de bataille, même si certains pays touchés par ces terroristes ont dû s'engager et se battre pour mieux sécuriser le pays. C'est un problème qui reste nigérian. C'est pourquoi, une semaine après ma prise de fonction, je suis allé les remercier et les écouter au sujet de meilleurs moyens pour lutter contre le terrorisme au Nigeria et dans les régions du Nord-Est en particulier.
Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari.
Présidentielle rwandaise, le Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir, s'est prononcé sur une réforme de la Constitution, indique le journal pro-gouvernemental New Times, une mesure qui ouvrirait la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame en 2017. Compte tenu des souhaits de nombreux Rwandais, nous soutenons la proposition d'amendement de l'article 101 de la Constitution et d'autres dispositions de la loi qui ont besoin de modifications, affirme un communiqué du FPR.
En République démocratique du Congo, les députés ont crié à la fraude et renvoyé au gouvernement un projet de loi sur la répartition des sièges des circonscriptions pour, et je cite, « incohérence des chiffres avec la réalité sur le terrain ». Eddie Sango.
Les membres de l'Assemblée nationale ont refusé d'examiner dans les détails les projets de loi et ont dénoncé les intentions de fraude de la part du gouvernement. Ils ont relevé des incohérences entre les chiffres et la réalité sur le terrain. Les députés ont entre autres relevé plusieurs groupements et secteurs inexistants ou faisant l'objet des contentieux majeurs que le gouvernement reprend dans le projet de loi. Lesquels projets de loi reprend en effet des secteurs qui n'ont ni groupement ni village et des groupements qui n'avaient aucun électeur en 2011, mais auxquels le gouvernement attribue des sièges. Pour les élus, les projets sont en déphasage avec les recensements électoraux de 2004 et l'actualisation faite en 2011. La défense de ces projets de loi samedi par les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, Évariste Beauchab, n'a pas suffi pour convaincre les députés. Les projets ont été déclarés irrécevables et devraient être améliorés avant les élections provinciales, municipales, urbaines et locales qui devront avoir lieu le 25 octobre.
Et toujours au sujet de la RDC, le procès de l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda, accusé de crimes contre l'humanité, s'ouvrira devant la Cour pénale internationale le 7 juillet à La Haye. C'est ce qu'a indiqué la Cour pénale internationale dans un communiqué.
Présidentielle ivoirienne, le président Alassane Ouattara promet des élections apaisées, démocratiques et ouvertes en octobre. D'après l'AFP, il s'est ainsi exprimé à l'issue d'un entretien avec son homologue français François Hollande à Paris.
Affaire Thomas Sankara, la veuve de l'ancien président burkinabé exilé en France, a demandé à des députés français d'ouvrir une enquête parlementaire pour élucider le rôle de la France dans la mort de son mari. Elle entend ainsi obtenir un accès aux archives de la France afin de faire la lumière sur les circonstances de l'assassinat du président Thomas Sankara.
Des soldats somaliens ont été tués mardi près de Mogadiscio dans l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule, selon un responsable sécuritaire et des témoins.
Et puis, la justice égyptienne a confirmé aujourd'hui la peine de mort prononcée contre l'ex-président Mohamed Morsi dans un procès pour violence et évasion de prison durant la révolte de 2011. Un verdict qui vient confirmer de nouveau la volonté du pouvoir d'éradiquer l'opposition islamiste.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les rebelles Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen, ont annoncé qu'ils refusaient tout dialogue avec le gouvernement en exil en Arabie Saoudite à leur arrivée aujourd'hui à Genève. Ce n'est pas là le seul obstacle qui se dresse devant les médiateurs onusiens, comme nous l'explique Salwa Jawari.
En tant que puissance politique à l'intérieur du Yémen, nous avons convenu que l'actuel chef du gouvernement ne fait pas partie du dialogue. C'est à nous de choisir qui mettre à la tête du gouvernement.
Le message est clair, les Houthis ne veulent ni du président Hadi, ni de son gouvernement en exil autour de la table des négociations. Ils réclament néanmoins un face-à-face avec Riyad, à la tête de la coalition arabe dont les frappes visent quotidiennement leur position. Et pour compliquer les choses, le gouvernement yéménite, lui, refuse de parlementer, sauf pour discuter d'une résolution du Conseil de sécurité qui ordonnerait le retrait des Houthis de tout le territoire. Les positions des deux parties sont tellement éloignées que les Nations Unies ont opté pour des consultations séparées avec chaque délégation dans un premier temps. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, le Mauritanien Ismail Ould Cheikh Ahmed, a déjà rencontré hier la délégation du gouvernement en exil et devrait se réunir aujourd'hui avec les représentants des rebelles. Les pourparlers sous l'égide de l'ONU visent à parvenir, sinon à un accord, du moins à une trêve dans les combats qui ont fait depuis mai plus de 2600 morts.
Et Qassem al-Rimi est le nouveau chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il est considéré comme l'un des piliers du groupe qui a réussi à recruter une génération entière de combattants dédiés à la cause du djihad. Il succède à Nasser al-Wahishi, tué la semaine dernière dans une attaque de drones américains au Yémen.
Les combattants kurdes et les rebelles syriens assurent aujourd'hui le contrôle total de Tal Abiyad après avoir chassé les forces du groupe État islamique de cette ville du nord syrien, près de la frontière turque.
Les rebelles talibans ont mis en garde aujourd'hui le chef de l'organisation État islamique contre toute tentative d'implication dans leur pays après des accrochages dans l'Est entre leurs hommes et des combattants se réclamant de ce groupe djihadiste.
Alors, une cour tribale du sud du Pakistan, a jugé un garçon de 10 ans coupable d'avoir eu une liaison avec une femme mariée et condamné sa famille à verser 700 000 roupies, soit 6 200 euros, a indiqué la police mardi. Les cours tribales, des instances traditionnelles constituées d'anciens, sont critiquées pour avoir notamment appuyé le mariage forcé de jeunes filles pour mettre fin à des conflits familiaux.
Sachez aussi que Donald Trump est devenu officiellement le 12e républicain à annoncer sa candidature à l'investiture du parti pour la présidentielle de 2016.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Timothée Donangmaï.
Coup d'envoi aujourd'hui à Abidjan de la 2e conférence internationale de la certification des produits agricoles ICC 2015. Le thème « Certification, outils de valorisation et de compétitivité des filières agricoles ». Une trentaine de filières sont visées, notamment le café, le cacao, la mangue, l'anacarde, le manioc, le palmier à huile, le coton, le karité et la banane. Au plan de la finance, lancement aujourd'hui à Dakar de la Fondation du Crédit Mutuel du Sénégal. La CMS va intervenir dans 4 domaines prioritaires, éducation, santé, sport et culture. Son directeur général, M. Mohamed Ndiaye, a invité les autorités gouvernementales, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs qui œuvrent pour le développement du Sénégal, à apporter leur soutien aux efforts de la Fondation, rapporte APA. Enfin, un mot d'aéronautique avec un coup d'œil au Salon du Bourget qui en est à sa 2e journée. Le constructeur américain Boeing a finalisé une commande ferme de 100 appareils de la nouvelle génération 737 MAX 8 par le loueur néerlandais AerCap au prix catalogue de 10,7 milliards de dollars. S'y sont ajoutées 10 autres commandes fermes pour le 737 MAX d'un loueur japonais et 2 pour le 737 d'actuelle génération venant de la compagnie indonésienne Sriwijaya.
Voilà, c'était donc Tim pour la Minute Éco. Merci. Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Coupe du monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande. Les deux derniers représentants africains se préparent.
La nuit prochaine, le Sénégal et le Mali ont rendez-vous avec leur destin. Qualifiés en demi-finale du tournoi, les Sénégalais défieront les Brésiliens à Christchurch, tandis que les Maliens affronteront à Auckland la Serbie le même jour. C'est une première pour l'équipe du Sénégal à ce stade de la compétition, mais on rappelle que le Mali avait fini 3e du Mondial Junior, c'était en 1999 avec un certain Seydou Keïta. Les Aiglons actuels rêvent désormais d'aller en finale. Écoutons Cheikh Fantamadi Diallo, le manager général du stade malien et surtout ancien coach des moins de 20 ans, à la dernière Coupe du Monde en Colombie.
Ce n'est pas la première fois qu'on soit à ce niveau-là. La génération de Seydou Keïta et Mamadou Diarra Djila ont été déjà en demi-finale de cette compétition en 1999, je pense. Donc, on est habitué de la compétition, mais cette année, vraiment, on a de très bons joueurs et puis ils ont fait une très bonne préparation, donc ça m'étonne, moi, personnellement, qu'ils soient à ce niveau-là. Il y a quand même de très bons joueurs là-dedans qui peuvent faire une carrière professionnelle. Je citerai, il y a Djadje Samaseku au milieu du terrain, qui porte le numéro 8, je crois. Tous les attaquants qui sont très, très bons joueurs. Il y en a qui sont déjà dans les clubs professionnels européens en France, par exemple, à Lille. Et vraiment, je pense qu'il y a de très bons jeunes là-dedans. Il y a de très bons jeunes.
Qu'est-ce que vous pensez du prochain adversaire, la Serbie, pour les Maliens?
Bon, ça va être très, très difficile en demi-finale. Hein. C'est la demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, ça va être très, très, très difficile.
C'était Cheikh Fantamadi Diallo.
Coupe du Monde féminine au Canada, dernier match et dernière défaite des Ivoiriennes.
La Norvège a battu la Côte d'Ivoire 3-1. Les éléphantes rentrent donc à Abidjan avec 0 victoire. L'Allemagne a battu la Thaïlande 4-0. Le Canada a été tenu en échec un partout par les Pays-Bas à Montréal, mais se qualifie néanmoins. La Chine aussi sera au prochain tour puisqu'elle a fait match nul de partout avec la Nouvelle-Zélande. On va suivre ce soir le Nigeria et le Cameroun qui jouent leur qualification.
Enfin, la NBA, 6e match ce soir.
Golden State mène la série par 3 victoires à 2 contre Cleveland. En cas de succès de Stephen Curry et de ses coéquipiers cette nuit, les Warriors remporteraient leur premier titre depuis 1975.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoulia et Morgane Guériec en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Tchad.
Le pays est encore sous le choc au lendemain du double attentat de N'Djamena que les autorités ont attribué aux islamistes nigérians de Boko Haram. Toutefois, les Tchadiens ont repris leurs activités et les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour faire la lumière sur ces tragiques événements. Pour faire le point, Timothée Donongmaï a joint André Code Majingar de notre station partenaire FM Liberté à N'Djamena.
Le lendemain de ce double attentat qui a coûté la vie, n'est-ce pas, 28 Tchadiens et une centaine de blessés, je crois que l'esprit des Tchadiens est au beau fixe. Aujourd'hui, tout le monde va normalement à ses occupations, les travailleurs reprennent le chemin, n'est-ce pas, du travail, le marché réouvre ses portes comme d'habitude. Et les étudiants, les élèves reprennent également les cours dans de bonnes conditions. Et partout dans la ville, l'ambiance est de taille. Cette situation n'a pas découragé les Tchadiens parce que les Tchadiens sont déterminés, n'est-ce pas, à lutter efficacement pour tenir au bout à cette fête islamique, Boko Haram, qui fait endeuiller les Tchadiens. Et donc, les mesures de sécurité annoncées hier par les autorités commencent déjà à se sentir à travers les affaires de la ville. La ville est quadrillée, même dans à l'entrée de grandes institutions, par exemple à l'Assemblée nationale, par exemple dans les lieux publics. Les congés cadrés, les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre, n'est-ce pas, pour amener la sécurité dans la ville de N'Djamena.
C'est la première fois que la capitale tchadienne est frappée par de tels événements. Comment cela se passe du point de vue de l'enquête?
Oui, l'enquête poursuit son cours aujourd'hui. Tous les services de sécurité alertés. Le service de sécurité est descendu à l'école de police où il y a eu également cet attentat suicide. Les autorités sécuritaires prennent toutes les dispositions nécessaires parce que c'est pour la première fois, comme je l'avais dit. Et les services de sécurité doublent, n'est-ce pas, de la vigilance pour que telle situation ne se reproduise plus. L'enquête continue. Il y a au moins quelques suspects qui ont été arrêtés. Oui, le procureur de la République qui a également fait une déclaration aujourd'hui sur le champ national pour dire que tout ce qui a été arrêté devrait être traduit devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Donc, la sécurité est en train de traquer les suspects.
André Code Majingar de notre station partenaire FM Liberté, N'Djamena.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
C'est l'accalmie depuis plusieurs jours à Bujumbura. Le gouvernement en a donc profité pour tenir une cérémonie de prestation de deux nouveaux membres de la CENI. Ce sont deux femmes qui remplacent les membres qui avaient démissionné pour protester contre les pressions du pouvoir. De Bujumbura, le reportage de notre envoyé spécial Bagassi Koura.
Ce matin à Bujumbura, le gouvernement a voulu marquer un coup pour installer les deux nouveaux membres de la CENI, les parlementaires proches du pouvoir, les membres du gouvernement et les représentants des forces armées étaient tous présents. Et c'est le président Pierre Nkurunziza lui-même qui a présidé la cérémonie. La prestation de serment de ces deux nouveaux membres de la CENI a été saluée par le président de l'institution, Pierre Claver Ndaïkarié.
Voilà, le Burundi est là. Nous avons deux nouvelles commissaires de la CENI. Ce sont des citoyennes burundaises. Elles ont, je crois, compris qu'il faut d'abord servir. Servir la nation, servir le peuple, servir au processus électoral et non pas céder aux pesanteurs externes à la commission électorale.
Sans surprise, l'opposition était absente au Parlement lors de cette cérémonie. Elle qui demande depuis plusieurs semaines une CENI et des dates consensuelles pour la tenue des élections.
Nous n'avons pas participé à cette cérémonie que nous considérons comme une parodie.
Charles Nditidia, le président de l'UPRONA.
C'est une comédie politique parce que la mise en place des deux membres, nouveaux membres de la CENI, a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Les deux dames, après investigation, sont proches du CNDD-FDD. On n'a pas contacté les partis de l'opposition, alors que normalement, la mise en place doit se faire de manière consensuelle. Donc aujourd'hui, c'est une CENI qui est composée exclusivement des membres du CNDD-FDD. Donc c'est une CENI tout à fait acquise à la cause du candidat Nkurunziza.
Récemment, le président burundais Pierre Nkurunziza avait affirmé que 90% de la population a déjà retiré la carte d'électeur dans la perspective des prochaines élections. Ce mardi, le président de la CENI a martelé que son institution est prête pour la tenue des scrutins à venir. Pierre Claver Ndaïkarié.
En réalité, pour les élections des députés, pour les élections des conseils communaux, nous sommes prêts depuis plusieurs semaines.
Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, estime qu'environ 100 000 Burundais sont réfugiés dans les pays voisins en raison de la crise et l'opposition rejette tout processus électoral qui ne tienne pas compte de ces réfugiés. Bujumbura, Bagassi Koura pour VOA Afrique.
La Voix d'Amérique au Burundi sur les ondes de la radio publique africaine 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Et nous partons maintenant au Burkina Faso, où l'on encourage les femmes à cultiver le coton. C'est en tout cas le cheval de bataille de la Sofitex, la société des fibres textiles du Burkina Faso, pays dont le coton est le premier produit d'exportation. La correspondance de Zoumana Wanougo.
Ici au Faso, malgré la poussée permanente de l'or, le coton reste toujours le premier contributeur à l'économie nationale. Mais la culture du coton reste aussi dominée par les hommes. Pour donc inverser la tendance, la Sofitex, société des fibres textiles du Burkina, a décidé d'encourager particulièrement les femmes à la culture du coton. Jonas Bayoulou, le secrétaire général de la Sofitex, explique.
Dans les exploitations individuelles, dans le cadre de l'organisation de cette exploitation, les femmes soutiennent souvent leur mari. Mais ce que l'on souhaite surtout encourager, c'est les femmes qui ont décidé par elles-mêmes de se mettre en groupement de producteurs de coton et de s'organiser, prendre les crédits et puis les rembourser tranquillement. C'est surtout cette catégorie-là qu'on souhaite véritablement encourager.
In concreto, comment se traduit cet encouragement ? Suivant la réponse de Jonas Bayoulou.
On ne donnera pas de l'argent frais à quelqu'un. L'objectif visé étant de créer les conditions qui permettent aux producteurs de se fixer davantage sur la culture du coton. Donc tous les prix qui seront donnés sont des prix en nature. C'est clair que lorsque vous avez équipé mieux le producteur, lorsque vous l'avez doté de meilleurs moyens de travail, lorsque vous l'avez équipé en magasin pour mieux stocker ses intrants, vous avez préservé un certain nombre de surcoûts qu'ils vivaient et qui vont faciliter le travail qu'ils réalisent sur le terrain.
Que pensent les hommes producteurs de coton de l'accent mis sur les femmes ? Écoutons ce qu'en dit le cotonculteur Ardiouma Sanou.
Oh, mais je trouve ça une bonne chose. Aujourd'hui, là, tout le monde doit contribuer au développement. Puis tout ça, là, ça part à la bonne sens de la famille. Aujourd'hui, si moi je n'ai rien, la femme va m'épauler. Alors, surtout, on a des enfants qui sont à l'école aujourd'hui. Si moi je n'ai pas de sous, elle peut me compléter.
Notre cotonculteur avait à ses côtés Mariam, son épouse. Elle explique en langue nationale Djoula comment les femmes s'organisent pour cultiver le coton.
Nous avons étarqué le Sénon. Nous sommes
Je vais faire un hectare. Nous, les femmes, on est organisées en groupement. Et à tour de rôle, on passe dans le champ de chacune pour cultiver. C'est de la sorte qu'on s'entraide. La culture du coton est certes difficile, mais il y a beaucoup d'argent dedans. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Eh bien, grave pénurie d'eau à Gao, dans le nord du Mali. Selon notre correspondant sur place, les populations s'inquiètent à l'approche du Ramadan. La station de production est aujourd'hui incapable de satisfaire les besoins en eau potable des populations qui s'inquiètent à l'approche du Ramadan, nous dit de Gao Boubacar Touré.
Depuis plusieurs mois, certains quartiers de la périphérie de Gao ont cessé de voir leur robinet couler. Voici le témoignage de Madame Meiga.
Pour avoir de l'eau, on va jusqu'au 7 pour aller chercher de l'eau. De 0h jusqu'à 5h ou 6h30 du matin, on n'arrive même pas à trouver un seau d'eau. Pour avoir aussi la charrette, il faut payer. Quand tu payes aussi, tu vas payer très dur. Parfois, tu demandes de t'amener 6 bidons, par exemple, on va te dire que tu vas payer au moins 3000 francs ou bien 2000 500. Quand tu n'en es pas, comment tu vas trouver ce taux-là? Si ça continue comme ça, que le mois de carême nous trouve sur ça, vraiment, on va souffrir. Sans l'eau, on ne peut pas préparer, on ne peut pas manger, on ne peut pas faire le lavage. On en est marre.
Pour comprendre les difficultés dans la production de l'eau potable, nous avons rencontré un responsable de la SOMAGEP, comprenez par là la Société malienne de gestion de l'eau potable à Gao, qui a bien voulu garder l'anonymat. Il nous fait comprendre que l'usine de production est incapable de satisfaire ses 5000 abonnés. Le besoin de la population de Gao en eau potable s'élève à 11 000 mètres cubes par jour, alors que l'usine ne produit que 7 500 mètres cubes par jour. Aux 5000 abonnés de la société, s'ajoutent 794 branchements clandestins. Ainsi, les quartiers d'Aljana Bandia, Soussoukouira Extension Gadei sont privés d'eau et à Soussoukouira Centre, au château, il faut veiller jusqu'à 2h du matin pour pouvoir être servi en eau potable. Voilà donc comment se présente le quotidien des populations de Gao en cette période de forte chaleur et à l'approche du mois béni de Ramadan. Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, rap music. Notre sujet de cette semaine, quelle est l'importance de l'argent dans une relation amoureuse, dans un couple je veux dire. L'argent est-il une dimension majeure de la fondation d'un foyer? Lequel est plus fort, l'amour ou l'argent? Ça va barder cette semaine dans RM Show. Écoutez les amis, quand on aime, on ne compte pas. Tel est le dicton populaire. Vos réactions sur notre groupe Facebook Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Appelez-nous aussi au 001 202 619 31 40 ou envoyez-nous vos réactions par SMS au plus 225 58 92 85 40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Du nouveau sur le double attentat suicide qui a fait 24 morts hier à N'Djamena, la capitale du Tchad. Le parquet annonce que plusieurs suspects ont été arrêtés.
Lutte contre Boko Haram toujours, les États-Unis vont contribuer à hauteur de 5 millions de dollars à la force régionale de lutte composée du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Bénin et du Cameroun.
Présidentielle rwandaise, le Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir, s'est prononcé pour une réforme de la Constitution, une mesure qui ouvrirait la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame.
Et en République démocratique du Congo, les députés ont crié à la fraude et renvoyé au gouvernement un projet de loi sur la répartition des sièges des circonscriptions pour, et je cite, « incohérence des chiffres avec la réalité sur le terrain ».
Et toujours au sujet de la RDC, le procès de l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda, accusé de crimes contre l'humanité, s'ouvrira devant la Cour pénale internationale le 7 juillet à La Haye.
Présidentielle ivoirienne, le président Alassane Ouattara promet des élections apaisées, démocratiques et ouvertes en octobre. Cette édition touche à sa fin. La mise en onde a été assurée par Lionel Gahima. Présentation Morgane Guéric et Idrissa Seydoudia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.